petit diable. La comtesse de Ségur. Extrait. Chapitre 1 et chapitre 8. À ma petite fille, Madeleine de Malaré. Ma bonne petite Madeleine, tu demandes une dédicace, en voici une. La Juliette, dont tu vas lire l'histoire, n'a pas comme toi l'avantage de beaux et bons yeux, puisqu'elle est aveugle, mais elle marche de pair avec toi pour la douceur, la bonté, la sagesse et toutes les qualités qui commandent l'estime et l'affection. Je t'offre donc le bon petit diable, escorté de sa Juliette, qui est parvenu à faire d'un vrai diable un jeune homme excellent et charmant, au moyen de cette douceur, de cette bonté chrétienne qui touche et qui ramène. Emploie ces mêmes moyens contre le premier bon diable que tu rencontreras sur le chemin de ta vie. Ta grand-mère, comtesse de Ségur, née Rostopchine. Chapitre 1. Les fées. Dans une petite ville d'Écosse, dans la petite rue des Combats, vivait une veuve d'une cinquantaine d'années, Madame MacMiche. Elle avait l'air dur et repoussant. Elle ne voyait personne de peur de se trouver enchaînée dans quelques dépenses, car elle était d'une avarice extrême. Sa maison était vieille, sale et triste. Elle tricotait un jour dans une chambre du premier étage, simplement, presque misérablement meublée. Elle jetait de temps en temps un coup d'œil à la fenêtre et paraissait attendre quelqu'un. Après avoir donné divers signes d'impatience, elle s'écria :
Ce misérable enfant, toujours en retard, détestable sujet ! Il finira par la prison et la corde si je ne parviens à le corriger. »
À peine avait-elle achevé ces mots que la porte vitrée qui faisait face à la croisée s'ouvrit. Un jeune garçon de 12 ans entra et s'arrêta devant le regard courroucé de la femme. Il y avait, dans la physionomie et dans toute l'attitude de l'enfant, un mélange prononcé de crainte et de décision.
« D'où viens-tu ? Pourquoi rentres-tu si tard, paresseux ? »
Ma cousine, j'ai été retenue un quart d'heure par Juliette qui m'a demandé de la ramener chez elle parce qu'elle s'ennuyait chez monsieur le juge de paix.
Quel besoin avais-tu de la ramener ? Quelqu'un de chez le juge de paix ne pouvait-il s'en charger ? Tu fais toujours l'aimable, l'officieux. Tu sais pourtant que j'ai besoin de toi, mais tu t'en repentiras, mauvais garnement. Suis-moi.
Charles, combattu entre le désir de résister à sa cousine et la crainte qu'elle lui inspirait, hésita un instant. La cousine se retourna et, le voyant encore immobile, elle le saisit par l'oreille et l'entraîna vers un cabinet noir dans lequel elle le poussa violemment.
« Une heure de cabinet et du pain et de l'eau pour dîner, et une autre fois ce sera bien autre chose !»«
Méchante femme !» « Détestable femme !»
marmotta Charles dès qu'elle eut fermé la porte.
« Je la déteste. Elle me rend si malheureux que j'aimerais mieux être aveugle comme Juliette que de vivre chez cette méchante créature. Une heure, c'est amusant. Mais aussi je ne lui ferai pas la lecture pendant ce temps. Elle s'ennuiera. Elle n'aura pas la fin de Nicolas Nickleby que je lui ai commencé ce matin. C'est bien fait. J'en suis très content. »
Charles passa un quart d'heure de satisfaction avec l'agréable pensée de l'ennui de sa cousine. Mais il finit par s'ennuyer aussi.
« Si je pouvais m'échapper, » pensa-t-il. « Mais par où ? Comment ? La porte est trop solidement fermée. Pas moyen de l'ouvrir. Essayons pourtant. »
Charles essaya.
Mais il eut beau pousser, il ne parvint seulement pas à l'ébranler.
Pendant qu'il travaillait en vain à sa délivrance, la clé tourna dans la serrure. Il sauta lestement en arrière, se réfugia au fond du cabinet et vit apparaître, au lieu du visage dur et sévère de sa cousine, la figure enjouée de Betty, cuisinière, bonne et femme de chambre tout à la fois.
« Qu'est-ce qu'il y a ? »
dit-elle à voix basse.
« Encore en pénitence ?»
Succès complet, chapitre 8. Charles avait été jusque chez Juliette. Il entra comme un ouragan.
« Juliette, Marianne, donnez-moi quelques sous de quoi acheter une feuille de papier noir. »«
Que veux-tu faire de papier noir, Charlot ?» dit Marianne.
« C'est pour faire deux têtes de diable, pour faire peur à ma cousine. »
« Charles, Charles, te voilà encore avec tes projets méchants. Pourquoi lui faire peur? C'est mal !»
dit Juliette.
« Ne me gronde pas avant de savoir ce que je veux faire, Juliette. Ma cousine a découvert, en me saisissant pour me battre, encore !»
s'écria douloureusement Juliette.
« Encore et toujours, ma bonne Juliette. Elle a donc découvert que le fond de ma culotte était doublé. » Elle croit que c'est du carton. Et déjà, elle m'a menacé de m'enlever ma culotte. La première fois qu'elle me battrait. Alors, j'ai imaginé avec Betty de découper deux têtes de diable avec des langues rouges. Que Betty me collera sur la peau pour remplacer les visières. Et quand ma cousine m'enlèvera ma culotte et qu'elle verra ces diables, elle aura une peur épouvantable. Et elle n'osera plus me toucher.
Tu vois que ce n'est pas bien méchant.
Marianne et Juliette se mirent à rire de l'invention du pauvre Charles. Marianne fouilla dans sa poche, en retira 4 sous et les donna à Charles en disant « C'est le cas de légitime défense, mon pauvre Charlot. Tiens, voici 4 sous. S'il t'en faut encore, tu me le diras. » Charles remercia Marianne et disparut aussi vite qu'il était entré.
« Ce pauvre Charles, il me fait pitié en vérité. Je ne comprends pas qu'il supporte avec tant de courage sa triste position, » dit Marianne.
« Pauvre garçon, oui, il a réellement du courage. Je le gronde souvent, mais bien souvent aussi, j'admire sa gaieté et sa bonne volonté à bien faire, »
ajouta Juliette. « Il faut dire que tout ça ne dure pas longtemps. En 5 minutes, il passe d'un extrême à l'autre. » Bon à attendrir ou mauvais comme un diable, dit Marianne.
Oui, mais toujours bon diable, dit Juliette.
Charles acheta pour 2 sous de papier noir, 1 sou de papier rouge et 1 sou de colle. Il rentra à la cuisine par la porte du jardin avec précaution. Regardant autour de lui, s'il apercevait l'ombre de la tête de Madame MacMich, écoutant, s'il entendait son souffle bruyant, tout était tranquille. Betty était seule et travaillait près de la fenêtre.
« Betty, ma cousine est-elle chez elle ?»
dit Charles à voix basse.
« Oui, elle a fait assez de tapage, je t'en réponds. La voilà tranquille maintenant.
Prends garde qu'elle ne nous entende. »
Charles répondit par un sourire, fit voir à Betty son papier noir et rouge, sa colle, lui fit signe de n'y pas toucher et disparut. Il ne tarda pas à rentrer, tenant à la main un diable en papier pour ombre chinoise. Il le calqua avec un morceau de charbon au revers blanc de la feuille noire. Et pria Betty de le découper en ployant la feuille double pour en avoir 2 d'un coup. Puis, il traça sur le papier rouge une grande langue qu'il eut double par le même moyen. Quand Betty eut terminé les découpures, elle mit un peu d'eau chaude dans la colle. l'étendit sur l'envers des diables et les colla sur la peau de Charles, qui riait sous cape de la peur qu'aurait sa cousine. Il était bien décidé à la provoquer, à l'agacer, jusqu'à ce qu'elle cédât à l'instinct méchant qui la portait sans cesse à le maltraiter. Betty lui recommanda de bien laisser sécher la colle, de ne pas marcher, de ne pas s'asseoir surtout, jusqu'à ce que ce fût bien sec. Charles resta donc immobile pendant un quart d'heure environ. Au bout de ce temps, ils entendirent remuer, s'agiter dans la chambre de Madame MacMiche. Puis, elle appela.
« Betty ! Betty !»
Betty monta, mais lentement, car elle craignait que les diables de Charles ne fussent pas encore bien collés, et il ne fallait pas surtout les laisser monter dans le dos ou descendre le long des jambes. Elle recommanda à Charles de tourner le dos au feu et de s'en approcher le plus près possible. « Madame me demande ?» dit Betty en trouvant la porte.
« Certainement, puisque je t'appelle. »
Betty attendit les ordres de Madame MacMiche qui la regardait, mais ne disait rien. « Est-ce que Madame est souffrante ?»«
Non, mais je suis mal à mon aise, je suis inquiète. » « Où est Charles? Est-il rentré ?»«
Il est en bas, madame, il est rentré depuis longtemps. »«
Et quel air a-t-il ?»«
L'air gai et résolu. Je crois bien que nous nous sommes trompés et qu'il n'y a rien en lui de... des... Enfin, madame sait ce que je veux dire. »«
Oui, oui, je comprends. Il vaut mieux, en effet, ne pas trop parler de... des... Tu sais, Betty... » Tu sais, tu sais.
Madame a raison. Madame demande-t-elle autre chose?
Non, oui, c'est que je m'ennuie. Je voudrais avoir Charles pour qu'il écrive une lettre que je vais lui dicter.
Je vais l'envoyer à madame.
Tu es sûre qu'il n'y a pas de danger, qu'il a une figure ordinaire?
Pour ça, oui, madame. Comme d'habitude, madame sait.
Oui, une sotte, méchante, détestable figure. Envoie-le-moi de suite.
Avant de partir, Betty secoua les oreillers du canapé, arrangea les tabourets, en mit un sous les pieds de sa maîtresse, essuya la table, tira les plis des rideaux, etc.
Que fais-tu donc? Va me chercher Charles, je te l'ai déjà dit.
Betty essuya encore quelques meubles et descendit enfin à la cuisine où elle trouva Charles se rôtissant de son mieux. « Est-ce sec, mon pauvre Charlot ? Ta cousine te demande pour écrire une lettre. »«
Sec, sec comme du parchemin. J'y vais. Nous allons avoir une scène terrible. Laisse la porte ouverte et si tu m'entends crier, arrive vite, c'est qu'elle aura deviné la farce et qu'elle me battrait pour de bon. »
Charles monta.
« Vous me demandez pour écrire, ma cousine ? »
dit-il d'un air patelin.
« Me voici à vos ordres. »
La cousine le regardait d'un air méfiant.
« Tiens, tiens, comme il est doux. N'y aurait-il pas de féerie là-dessous ? »
pensa-t-elle.
« Écris ! »
dit-elle tout haut.
« Et prends garde que ce soit bien propre et lisible. »
Charles s'assit devant la table, prit une plume et attendit. Voici ce que dicta la cousine.
Monsieur et cher ami, j'ai quelques petites économies à placer, bien peu de choses, car mon neveu m'occasionne une dépense terrible. Mais en me privant de tout, je parviens encore à mettre quelques sous de côté. Faites-moi savoir comment je puis vous envoyer cet argent. La poste est trop chère. Je vous salue très amicalement, Céleste MacMiche.
La cousine prit la lettre, la signa, mais avant de la ployer et de la cacheter, elle voulut la relire. Charles ne la quittait pas des yeux et souriait en voyant le visage de Madame MacMiche s'empourprer et ses yeux s'enflammer.
« Misérable ! »
s'écria-t-elle.
« Pourquoi cela, ma cousine ? dit Charles naïvement.
« Comment, petit scélérat, tu oses dénaturer et changer ma pensée? Tu oses encore redire ce mensonge infâme que tu as inventé ce matin ?»«
Je n'ai écrit que la vérité, ma cousine. » »«
La vérité? Attends, je vais te faire voir ce que te vaut la vérité. »
Et Madame MacMiche se jeta sur sa baguette. Voici ce qu'avait écrit Charles.
« Monsieur et cher ami, j'ai beaucoup d'argent à placer, beaucoup parce que mon neveu Charles ne me coûte presque rien. Je le prive de tout et je parviens ainsi à mettre les intérêts presque entiers des 50 000 francs que son père a placés chez moi avant sa mort au nom de son fils. »
Etc. etc. Madame MacMiche, se souvenant du carton qu'elle avait découvert le matin, arracha les boutons qui maintenaient la culotte de Charles. Elle allait commencer son exécution quand elle aperçut les diables qui lui présentaient les cornes et qui lui tiraient la langue. En même temps, elle vit de la fumée s'élever et tourner autour de Charles et elle se sentit suffoquée par une forte odeur de soufre. Les bras tendus, les yeux hagards, les cheveux hérissés, elle resta un instant immobile. Puis, elle poussa un cri qui ressemblait à un rugissement plus qu'à un cri humain et tomba tout de son long par terre. Ce cri épouvantable attira Betty, qui resta ébahie devant le spectacle qui s'offrit à sa vue. Madame MacMiche, étendue à terre, tenant encore la baguette dont elle voulait frapper le malheureux Charles, et celui-ci, tournant le dos à la porte, n'ayant pas encore rattaché sa culotte ni rabattu sa chemise, penché vers sa cousine qu'il cherchait à relever. Mais chaque fois qu'elle se sentait touchée par Charles, elle se roulait en poussant des cris. Charles la poursuivait, elle roulant pour lui échapper, lui suivant pour la secourir et présentant toujours à Betty les diables qui avaient eu un si brillant succès. Betty parvint enfin à approcher Madame MacMiche et à dire à l'oreille de Charles « Va-t'en, disparais, j'arrangerai ça !» Charles ne se le fit pas dire deux fois et s'échappa en maintenant à deux mains sa culotte qu'il reboutonna promptement. Il remit sur la cheminée la boîte d'allumettes, diminuée de 6, qu'il avait adroitement fait partir au moment même où Madame MacMiche le déshabillait et qui avait si heureusement contribué à augmenter l'effroi de la cousine. « Qu'est-il arrivé à Madame ?» s'écria hypocritement Betty, qui avait compris toute la scène et qui avait peine à dissimuler un sourire. « Madame était donc seule ? Je la croyais avec Charles ?»
Chasse-le, chasse-le, il est possédé, le juge avait raison, je ne veux pas qu'il me touche, chasse-le.
Mais madame accuse Charles à tort, il n'est pas ici, il n'y était pas.
Il y est, je suis sûre qu'il y est, ce sont ces fées qui le cachent, cherche-le, chasse-le.
Mon Dieu, madame me fait peur, il n'y a ni Charles ni fées.
Si fait, si fait, il a le diable dans sa culotte, deux diables.
Oh, madame, les diables n'auraient pas le mauvais goût de se loger dans une place pareille. Ça leur ferait une demeure pas trop propre. Avec ça que la culotte de ce pauvre Charles est si vieille, en si mauvais état.
Je te dis que je les ai vus. De mes yeux vus, ils m'ont fait les cornes et ils m'ont tiré la langue. Et Charles était tout en feu et enveloppé de fumée.
C'est donc ça qu'on sent un drôle de goût chez madame.
Je crois bien, ça sent le soufre, le parfum favori des fées du diable.
Ah, mon Dieu, c'est pourtant vrai. Mais Charles, où est-il ?
Les fées l'auront emporté, il n'y a pas de mal, pourvu qu'elles ne lâchent pas.
Oh, madame, c'est pourtant terrible, ce pauvre garçon, jugé donc en société des fées. C'est ça qui est mauvaise compagnie, Dieu sait ce qu'il y en apprendrait. Mais je crois que je l'entends à la cuisine, je vais voir.
Et avant que Madame MacMiche eût pu l'arrêter, Betty courut à la cuisine pour prévenir Charles de ce qui venait de se passer, pour lui expliquer le rôle qu'il allait avoir à jouer et pour lui dire de ne pas la démentir quand elle soutiendrait à Madame MacMiche qu'il n'y avait ni fée ni diable emprunt sur sa peau. Elle remonta, amenant Charles par la main. Madame MacMiche poussa un cri d'effroi. « Madame n'a pas besoin d'avoir peur. Tout ça, c'est quelque chose qui a passé devant les yeux de madame. Que madame le regarde, il n'y a rien du tout, ni feu, ni fumée. »«
Oui, mais les diables, les diables !»«
Il n'y a rien du tout. Pas plus de diables que sur ma main, que madame voit elle-même. Défais ta culotte, mon garçon. N'aie pas peur. C'est pour rassurer ta pauvre cousine. » Charles obéit et se retourna vers sa cousine au moment où Betty disait « Madame voit, il n'y a rien que quelques marques des coups déjà anciens. » Madame MacMiche regarda, poussa un nouveau cri de terreur et d'un geste désespéré indiqua à Betty de faire sortir Charles. Betty obéit et resta en bas où elle donna un libre cours à sa gaieté. Charles rit aussi de bon cœur et triompha du succès de son stratagème. Il avait fait bien mieux encore. Le traître avait saisi la lettre dictée, signée par Madame MacMiche, et l'enveloppe préparée d'avance. Il apprit ainsi l'adresse de l'ami de Madame MacMiche qu'il avait ignorée jusqu'alors. Betty riait et s'occupait du dîner pendant que Charles pliait, cachetait la lettre et complétait ainsi le tour qu'il venait de jouer à sa cousine. Quand le dîner fut prêt, Madame MacMiche refusa de descendre, de peur de se trouver en présence de Charles, qu'elle croyait toujours en rapport avec les fées. Betty eut beaucoup de peine à la rassurer et à lui persuader qu'elle n'aurait rien à craindre de Charles en ne le touchant pas et en ne se laissant pas toucher par lui. Ce dernier raisonnement convainquit Madame MacMiche. Quand elle entra, elle se hâta de jeter quelques gouttes d'eau de la fontaine des fées sur elle-même. Et, en se mettant à table, elle en lança une si forte dose à la figure de Charles, qui ne s'attendait pas à cette aspersion, qu'il en fut aveuglé. Il fit un mouvement involontaire, accompagné d'un « Oh !» bien accentué.
« Tu vois, Betty ?» L'effet de l'eau de fontaine sur ce protégé des fées.
Mais vous m'en avez jeté dans les yeux, ma cousine. Comment voulez-vous que j'aie réprimé un premier mouvement de surprise?
Mon Dieu, oui, ce n'est pas l'eau des fées qui l'a fait tressaillir, c'est l'eau dans les yeux, dit Betty. Madame MacMiche ne dit plus rien. Elle se mit à table et mangea silencieusement, en ayant bien soin de ne laisser Charles toucher à aucun des objets dont elle faisait usage. Après dîner, elle examina la physionomie de Charles. Elle n'aperçut rien de suspect, sinon une violente envie de rire qu'il comprimait difficilement.
« De quoi ris-tu, petit Satan ?»«
De la frayeur que je vous inspire, ma cousine. Vous venez de me regarder d'un air terrifié que je ne vous avais pas vu encore. »
Si j'avais su plus tôt faire société avec un ami des fées, tu m'aurais vu te regarder ainsi toutes les fois que je te voyais.
Mais je ne comprends pas, ma cousine, pourquoi vous me comptez parmi les camarades des fées. Je crains, moi, que ce ne soit vous qui soyez en faveur près d'elle, puisque vous voyez des choses que Betty ne voit pas.
Tais-toi ! Tais-toi ! Horreur ! Moi ! Ami des fées, et tu oses dire un pareil blasphème? Ah, si je ne craignais de te toucher, tu me le paierais cher.
Je remercie bien vos amis les fées de la terreur qu'elles vous inspirent.
Betty, ôte-le! Mets-le où tu voudras, je ne veux plus le voir, l'entendre!
Et Madame MacMiche monta dans sa chambre, prit son châle, son chapeau, et sortit en menaçant Charles du poing. Celui-ci était enchanté du bon service que lui avaient rendu ces diables en papier.